Bienvenue sur le podcast Conversation sur l'oreiller. Nous avons des échanges en direct à propos du plaisir, des relations et du développement personnel. Je suis votre hôte, Mélanie J. Bienvenue dans l'épisode numéro 10 des Conversations sur l'oreiller. Cet épisode est l'épisode final de la saison 1 du podcast. Mon nom est Mélanie J, je suis sexothérapeute, praticienne tantra et designer de mode. Dans cet épisode, je réponds à toutes les questions que vous avez pu me poser sur les réseaux sociaux, par message ou par email. Alors nous allons commencer tout de suite. Question numéro 1. Pourquoi est-ce que je n'arrive à jouir que quand je suis au-dessus? Alors cette question m'a été posée par une femme hétérosexuelle. Alors ma réponse à ça, c'est que dans cette position, le clitoris est stimulé de plusieurs manières différentes. Premièrement, il est stimulé de manière externe par le pelvis de ton partenaire et de manière interne par la pénétration et par la position. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas encore à quoi ressemble un clitoris, je vous invite à taper sur Google « clitoris » et à voir l'intégralité de l'organe. En clair, dans cette position, les parois internes du clitoris, les sortes de bulbes que vous pourrez voir, sont également stimulées. Donc, le fait que tu ne puisses jouir que dans cette position s'explique par le fait que ton clitoris est vraiment stimulé, on va dire, à 360 degrés, disons. Donc, pour pallier à ça, dans d'autres positions, tu peux aussi utiliser tes mains. Si par exemple tu es en dessous, rien ne t'empêche de stimuler ton clitoris de manière externe avec tes mains. Aussi, je dirais que le fait de trouver d'autres positions peut te permettre d'expérimenter d'autres orgasmes. Dans cette question, il n'y a que l'orgasme des parties génitales qui est pris en compte, alors que dans sa sexualité, on peut expérimenter des orgasmes qui sont autres, notamment quand on se tourne vers les pratiques tantriques. Question numéro 2. Est-ce normal de pleurer pendant et après les rapports sexuels? Alors c'est normal, c'est même tout à fait normal. Et j'encourage tout le monde à pleurer, ou en tout cas à s'autoriser à pleurer pendant et après les rapports sexuels. Alors ce phénomène, on dira, s'explique par plusieurs choses. Déjà, c'est un très bon signe si ça se produit, parce que ça signifie que l'espace qui a été créé pour le rapport te permet vraiment de lâcher prise au point que tu n'as plus aucun contrôle sur tes émotions et elles peuvent s'évacuer. En général, les personnes à qui ça arrive ressentent une certaine gêne ou une honte autour du fait qu'elles se mettent à pleurer pendant un rapport. Et ça peut être très perturbant aussi pour son partenaire, parce que les hommes peuvent se dire que, ou les femmes peuvent se dire que elles ont mal fait quelque chose et que du coup ce sont des larmes de tristesse ou quoi. Mais non, pas mal de personnes témoignent avoir pleuré lors des rapports, tout simplement parce que soit elles étaient contentes ou soit elles expérimentaient des sensations vraiment délicieuses qui ont fait que elles ont eu des larmes de joie, ou tout simplement aussi parce qu'elles sont tristes à un moment donné. Et ça ne veut pas dire que c'est une tristesse qui est créée par le rapport qui est en train de se produire, mais ça peut être tout simplement une tristesse qui a été refoulée pendant la journée et qui remonte à ce moment donné. Donc déjà, si vous êtes quelqu'un à qui ça s'est produit lors des rapports, c'est-à-dire que votre partenaire s'est mis à pleurer, ne le prenez pas nécessairement personnellement. Je pense que c'est une chance pour ouvrir le dialogue, proposer à son partenaire ou à sa partenaire si il veut en parler. Et si vous êtes quelqu'un à qui c'est déjà arrivé de se mettre à pleurer, si vous ressentez le besoin de stopper le rapport sexuel qui est en cours, parce que ce n'est pas nécessairement systématique, ce n'est pas parce qu'on se met à pleurer qu'on a envie d'arrêter de faire l'amour à son partenaire. Mais si vous en ressentez le besoin et si vous pensez qu'il y a l'espace nécessaire pour parler des émotions qui sont en train de survenir. Alors, prenez ça vraiment comme un cadeau que votre corps vous fait. Troisième question. Comment arrêter de simuler des orgasmes dans une relation où j'ai simulé depuis le début et comment avoir de vrais orgasmes? Alors, cette question me fait penser que les rapports auxquels vous vous adonnez dans votre relation sont vraiment basés sur l'orgasme. C'est un peu un fléau de construire toute sa sexualité en pensant que un rapport sexuel doit forcément se finir par un orgasme. C'est d'ailleurs une mentalité qui gâche pas mal de vie sexuelle et qui éloigne beaucoup plus les personnes de leur épanouissement qu'elles ne le pensent. Donc, il ne faut pas négliger le fait que se dire absolument qu'on veut avoir un orgasme ou qu'on veut donner un orgasme, c'est créer ou en tout cas mettre une sorte de pression mentale, que ce soit sur vous-même, mais aussi sur votre partenaire. Parce que vous demandez énormément de choses. C'est comme si vous passiez une évaluation ou un test, et en fait, absolument personne ne profite à cette mentalité. Le rapport sexuel ne devrait pas être un espace où vous essayez de prouver quelque chose. Ça devrait plus être un espace de partage. Donc déjà ça, je pense que ça aiderait le fait d'enlever la pression autour de l'orgasme. Et ensuite, de communiquer très clairement avec son partenaire sur nos besoins. Ouvrir un espace de dialogue avec son partenaire en expliquant clairement ce qui nous fait plaisir, ce dont on a besoin pour pouvoir être dans des conditions qui facilitent l'orgasme, je dirais. C'est déjà se donner un plus, en fait. C'est mettre toutes les chances de notre côté. Je le répéterai jamais assez, mais le meilleur moyen pour que votre partenaire puisse réellement vous faire plaisir, c'est d'exprimer ce qui vous fait réellement plaisir. Et le meilleur moyen de faire réellement plaisir à son partenaire, c'est de demander à son partenaire ce qui lui fait réellement plaisir. Parfois, ce sont les choses les plus simples auxquelles on pense le moins. Question numéro 4. Comment je peux instaurer des limites saines avec un ex qui veut qu'on garde contact? Ah, alors, premièrement, je dirais, sois au clair avec toi-même et communique clairement ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Dans ce premier point, la première partie est très importante. Le fait d'être au clair avec soi-même permet de ne pas faire des choix qu'on regrette et permet de ne pas cultiver de la culpabilité. Ce qui est, on va dire, très important pour toute notre sexualité. La culpabilité sur une chose peut affecter toute notre sexualité et peut affecter la sexualité qu'on a avec les autres qui ne sont pas concernés par la situation. Alors premièrement, être clair avec toi-même. Te poser les vraies questions, c'est-à-dire ce que tu veux réellement de cette personne et ce dont tu as besoin, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans tes relations et ce dont tu as besoin dans le rapport avec la personne qui est en l'occurrence ton ex. Et ensuite, une fois que tu as communiqué tout ça, si ton ex ne respecte pas tes choix, pose-toi la question, ai-je vraiment envie de continuer une relation amicale ou plus avec lui ou elle? Et ai-je besoin de le rayer de ma vie? Et si à cette question, tu acceptes les réponses les plus honnêtes et authentiques qui te viennent, alors je pense que les choix que tu feras seront en accord avec ce que tu es et ce que tu veux. Et ça te mettra automatiquement dans une position où les choses s'aligneront parce que tu sauras très clairement ce que tu veux. Et s'il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que tu veux, alors les choses se mettent en place. Question suivante, numéro 5. Que faire si mon compagnon est trop occupé pour passer du temps avec moi? Alors, déjà, en lisant cette question, je me dis que du coup, un de tes langages d'amour, c'est le temps de qualité passé avec l'autre. Alors, à tous les auditeurs qui écoutent, si vous ne savez pas ce qu'est votre langage d'amour, c'est une petite science qui a été mise en place, qui a pu établir cinq langages d'amour qui sont les marques affectives, les marques d'affirmation verbale, le toucher, le temps de qualité et les cadeaux matériels. Et on a tous un langage d'amour prédominant. Alors, évidemment, nous sommes tous composés des cinq langages d'amour, mais il y en a toujours un prédominant. Dans le cas où cette personne m'a posé cette question, si c'est très important pour elle, c'est fort possible que son langage prédominant soit le temps de qualité. Alors déjà, la communication, communiquer avec ton partenaire sur ce dont tu as besoin et le fait que pour toi, ce soit vraiment important de passer du temps avec lui ou avec elle. En l'occurrence avec lui, puisque mon partenaire. Oui, communique très clairement que tu as besoin de ça. Et je pense personnellement que beaucoup de personnes utilisent le fait d'être occupé comme excuse pour ne pas explorer l'intimité. Et quand je dis intimité, je le dis dans le sens profond des choses. On peut consciemment ou inconsciemment mettre en place des schémas qui nous maintiennent constamment occupés pour ne pas avoir à explorer la profondeur de la relation qu'on peut avoir avec l'autre. Tout simplement parce que la relation avec l'autre nous montre ce qu'il faut qu'on règle avec nous-mêmes et où sont nos lacunes et nos peurs, tout simplement. Donc, ça peut ne pas être quelque chose de conscient, comme je l'ai dit, mais il faut prendre en compte le fait que à certains moments, certaines personnes créent réellement des excuses. Et le temps ne tombe pas du ciel. On crée l'espace pour faire ce qu'on a à faire. Et si quelque chose est réellement important pour nous, on crée l'espace pour le faire. Donc, si ton partenaire tient réellement à toi ou si vous avez tous les deux pris l'engagement de vous mettre ensemble, alors parfois il est bon de faire une petite piqûre de rappel qui n'est pas agressive, mais une piqûre de rappel que vous avez tous les deux fait le choix d'être ensemble, vous avez tous les deux fait le choix d'ouvrir et de commencer une relation et que les choses auxquelles on accorde peu d'importance ont très peu de chances de survivre. Passer du temps ensemble est sans doute la moindre des choses à faire. Question suivante. Que penses-tu du fait de se masturber sur des vidéos porno? Alors, je vais être entièrement honnête sur cette question, quitte à être un peu crue. Je n'ai absolument aucun problème avec la pornographie, que ce soit sur les sites mainstream. Cela dit, à l'heure d'aujourd'hui, le fait qu'on ne puisse pas contrôler ce qui se passe sur Internet, il est important de se poser certaines questions après s'être masturbé devant un film porno. Déjà, sois attentif à comment tu te sens après t'être masturbé. Beaucoup de personnes témoignent du fait qu'elles se sentent vraiment limite dégoûtées ou sales après s'être masturbées devant un porno. Et pour moi, il n'y a aucun intérêt à cultiver ce genre d'émotion ou de ressenti dans sa sexualité. Donc, reconsidère le fait que ce que tu regardes peut avoir un effet sur toi et un effet négatif. Pose-toi la question de ce que tu regardes, quel type de porno tu regardes, à quelle fréquence tu le regardes et si ça te sert dans ta sexualité. Si, par exemple, tu es attiré par des films porno qui sont de l'ordre du hardcore et que la majorité de tes partenaires se plaignent du fait que tu sois beaucoup trop agressif dans ta sexualité, alors peut-être que ça ne te sert pas de continuer à cultiver cette violence sexuelle, peut-être, et que tu peux sans doute explorer d'autres facettes de la sexualité et y trouver autant de plaisir. Ensuite, c'est un sujet que je prends beaucoup au sérieux parce que dans le cadre de ma profession, il m'est donné de travailler avec pas mal de jeunes qui construisent leur vie sexuelle sur de la pornographie et qui du coup la vivent très mal. Donc c'est une vérité à ne pas négliger. Et ce n'est pas une vérité qui touche que les jeunes, mais aussi des adultes qui ont déjà vécu leur sexualité et qui pensent que, étant donné qu'ils ont une identité sexuelle, ils ne peuvent pas être affectés par la pornographie. Alors il est important d'avoir un minimum d'introspection là-dessus. Question suivante. Comment dire à mon partenaire que j'ai besoin de plus de préliminaires et plus de temps pour être excitée? Je te propose de tout simplement ouvrir le dialogue en disant « Chérie, j'aimerais vraiment te parler de quelque chose qui est important pour moi. Peux-tu me donner le temps et l'espace pour qu'on en parle ?» Et ensuite, utiliser la méthode du sandwich, comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire émettre quelque chose que tu aimes, c'est-à-dire j'aime vraiment partager des moments d'intimité avec toi. Cela dit, j'aimerais avoir, ou en tout cas expérimenter, des préliminaires beaucoup plus longs afin qu'on puisse explorer nos corps en profondeur et revenir vers une sexualité pénétrocentrée après cette exploration. Je pense que la forme des demandes que l'on émet dans notre relation est très importante. Premièrement parce que apporter les choses de manière calme et réfléchie permet d'évaluer la réaction de l'autre. C'est-à-dire que quand on est vraiment authentique dans notre expression, la réaction que l'autre aura nous donnera directement un indicatif sur la valeur qu'il ou elle y apporte. Et c'est déjà un très grand indicatif pour la relation en elle-même. Ensuite, j'aurais mon ou ma partenaire me présenterait la chose ainsi, je n'aurais en aucun cas refusé parce que je me dirais waouh, genre il y a vraiment la volonté de faire de notre sexualité quelque chose de meilleur, la volonté d'explorer, et ça ne peut être que bénéfique. Donc essaye un peu ça et vois ce que ça donne. Ensuite, dernière question. Comment gérer le fait d'avoir des amis très hétéros, P pénétrocentré quand on est un homme qui aime explorer la sexualité sacrée sans paraître gay et fleur bleue. Alors, évidemment, c'est un homme qui a posé cette question et je la trouve extrêmement intéressante et belle. La première partie de la question, comment gérer le fait d'avoir des amis très hétéro-pénétrocentrés? Ça me fait rire. Alors la deuxième partie de la question, c'est quand on est un homme qui aime explorer la sexualité sacrée. Troisième partie, sans paraître gay ou fleur bleue. À ça, je répondrai, ne te sens pas mal de ne pas répondre aux normes masculines, je dirais, voire même machistes ou patriarcales. Le fait de ne pas se sentir mal de ne pas répondre aux normes est pour moi quelque chose de l'ordre de la survie, car aujourd'hui, en 2021, on est à une époque où absolument tous les paradigmes sont en train d'être questionnés, toutes les normes sont en train d'être, on va dire, déconstruites. Alors, les personnes qui refusent de se réinventer ou de se repenser ont vraiment du mal à vivre l'époque dans laquelle nous vivons, tout simplement parce qu'il y a ce manque de lâcher prise ou le fait de s'accrocher à quelque chose qui est amené à disparaître. Donc le fait que tu ne répondes plus aux normes masculines est une bonne chose selon moi pour toi, en tout cas sur le long terme. Ensuite, ne néglige pas le fait que tu es sans doute une source d'inspiration, même si ce n'est pas, même si ce n'est pas exprimé de manière publique. Notre centre d'amis est très attentif, même s'ils ne paraissent pas à ce qui se passe autour d'eux. Et les personnes avec qui tu passes le plus de temps t'influencent, mais si tu passes du temps avec quelqu'un, la personne passe elle aussi du temps avec toi. Donc ça veut dire que tu as un impact sur la vie des personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et si tu es un homme qui aime explorer la sexualité sacrée, alors crois-moi, tu impactes beaucoup plus les hommes dans ton entourage que ce que tu penses. Ensuite, si tu es complètement épanoui dans ta sexualité en explorant une sexualité sacrée, le fait que les gens associent ta sexualité au fait d'être gay ou au fait d'être fleur bleue, alors déjà, ça te donne une petite idée de l'ouverture d'esprit des personnes qui sont autour de toi. Et ensuite, si tu sais que tu n'es pas gay, alors la vie des gens ne devrait pas avoir un impact sur toi. Je sais que c'est très facile à dire, particulièrement dans notre société où il y a énormément de pression qui est mise sur les épaules des hommes autour de leur sexe ou autour de la manière dont ils vivent leur sexualité. Mais si tu es en accord avec toi-même et si tes partenaires sont épanouis dans la sexualité que tu leur proposes, alors tu n'as rien à prouver à tes amis. Et je sais que ça peut paraître très radical, mais tu n'as rien à prouver à personne. Merci beaucoup pour toutes les questions qui ont été posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou en message Instagram ou Facebook. Je vous remercie d'avoir écouté la saison 1 des Conversations sur l'oreiller. Tous vos commentaires, vos propositions, vos remarques, vos conseils me vont droit au cœur et je vous retrouverai très bientôt pour une saison 2 qui sera toujours plus authentique, plus en profondeur et plus ouverte sur la sexualité, les relations et l'épanouissement personnel.